ce passage de l'Évangile, il y a quelques mots qui ont retenu mon attention. Les derniers mots du passage que nous venons de lire. Laissant tout, ils le suivirent. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a fait que ces hommes, dont Pierre qui est un homme d'âge mûr, un homme expérimenté, un homme qui était marié, puisque quelques chapitres après on parlera de la guérison de la belle-mère de Pierre, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce moment de bascule? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet avant et cet après? Qu'est-ce qui a fait que, au fond, la vie n'a plus du tout été la même après cet épisode et cette rencontre avec le Seigneur? Nous avons l'évangile de Luc, mais dans les autres, chez les autres évangélistes, vous avez la même chose de façon différente. Chez Matthieu et Marc, chez Jean, vous avez l'appel des premiers disciples qui étaient aussi disciples de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, hein, il suivait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu, maître où demeures-tu, venez et voyez. Et ils le suivirent. C'était environ la 10e heure. Et quand Jean écrit son évangile, il est âgé, c'est-à-dire qu'il fait mémoire d'un moment absolument clé dans sa vie. On a la même chose différemment, mais avec l'appel de Lévi, Matthieu. Le Seigneur vient à sa table et puis il se lève et le suit. Ce côté brusque, assez étonnant. Vous avez aussi la même chose avec Zachée. Zachée qui, la grâce est arrivée à cette maison, voilà, et demande-moi ce que tu veux. Vous avez aussi, d'une manière différente, mais quelque chose d'assez semblable avec la Samaritaine, avec la femme adultère, voilà, des hommes et des femmes qui ont rencontré le Seigneur et qui ont eu un avant et un après qui fait que la vie n'a pas du tout été la même. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais méditer avec vous sur cette question. Il y a certainement plusieurs raisons, ça, évidemment, mais une chose que j'ai retenue, c'est que dans toutes ces vies, il y avait une pierre d'attente. Ça veut dire quoi, une pierre d'attente? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'inaccompli, quelque chose qui était en devenir, l'expérience d'un manque, le besoin d'un ailleurs, peut-être l'expérience d'une vulnérabilité, d'une fragilité, le sentiment d'un inachevé, une incomplétude, une béance. Et cette béance, cette incomplétude, cet inachevé a rencontré la transcendance. C'est les deux, me semble-t-il, qui ont fait ce déclencheur dans la vie de ces hommes et ces femmes que je viens de citer et dans la vie de nombre de chrétiens qui, à la suite du Christ, ont pu aussi expérimenter ça. On le voit par exemple dans ce récit de la pêche miraculeuse. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, Pierre est un homme d'âge mûr, c'est un professionnel. Le lac de Génézareth, il le connaît comme sa poche. Il a pêché toute la nuit, parce que je suppose que la nuit, c'est là où il y a le maximum de poissons qu'on peut pêcher. Et le Seigneur lui fait toucher son manque. Nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et puis, tout de suite après, la pêche et l'expérience de la transcendance. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme pêcheur, pris d'effroi. Et oui, quand on est face à la transcendance de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui est tout à fait inédit, qui change nos vies. Au fond, Pierre et les premiers disciples, et puis bien beaucoup après eux, ont fait cette expérience d'être aimés radicalement dans leur fragilité. Vous voyez, par exemple, dimanche dernier, nous fêtions la présentation de Jésus au Temple. Et on peut l'interpréter, une des possibilités, c'est la fête de la vie consacrée, c'est la rencontre de la vulnérabilité d'un nourrisson, hein, parce que Jésus, tout nourrisson dans les bras de Marie, etc., accompagné de Joseph, qui se présente au temple, qui est le lieu du Dieu un, le lieu de la transcendance. Hein, au fond, est-ce que la vie consacrée ne consiste pas à laisser ouvrir la béance de son cœur, son incomplétude, ce manque, sa fragilité, et se laisser visiter par le Seigneur. Vous, frères et sœurs qui êtes jeunes, qui êtes là et qui êtes en retraite, vous êtes inscrits à une retraite de célibataire. C'est pas si facile de s'inscrire à une retraite de célibataire. C'est bien que dans cette inscription que vous avez faite, il y a une pierre d'attente. Il y a quelque chose que vous avez envie d'expérimenter, le désir de plus. Et le fait de venir en retraite, eh bien, fait que, précisément, vous revisitez aussi, vous réexpérimentez, ou vous demandez au Seigneur sa grâce, parce que c'est le fruit d'une grâce, c'est pas magique, on le sait bien, d'expérimenter sa transcendance et de vous laisser visiter dans ce qui est encore en devenir en vous. Je trouve que c'est de façon aussi intéressante de dire qu'il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir justement dans cette rencontre de l'inachevé et de la transcendance, il peut y avoir des parasites. Je pense à un autre appel qui, lui, n'a pas marché, c'est le jeune homme riche. Le jeune homme riche, par exemple, le Seigneur avait perçu en lui certainement quelque chose qui était en devenir. Mais voilà, parce qu'il était riche, et les richesses, on en a beaucoup, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi. Et puis non. Parce qu'il était très riche et que peut-être il... voilà, on se laisse gagner, on veut combler ce manque par des tas de choses, par un activisme, par une consommation de loisirs, par au fond combler ce désir d'infini qui est en nous par le fini. C'est, je pense que c'est intéressant d'être attentif justement à se laisser toucher par ça et de dire tiens, où est-ce que j'en suis, parce que c'est le cas de chacun. Où est-ce que j'en suis dans la capacité de montrer mon manque au Seigneur? Où est-ce que j'en suis dans ma capacité de dire que je suis une pierre d'attente? Il y a quelque chose en moi qui attend. C'est ça le salut. C'est le salut, c'est une nouveauté qui intervient dans notre vie, une transcendance qui intervient dans notre vie et qui vient la bouleverser, la revisiter, lui redonner un nouveau cap. Et aujourd'hui, vous le savez, nous fêtons le dimanche de la santé et le Saint-Père invite à prier à la fois pour les malades et pour tout le milieu médical. Voilà une fameuse pierre d'attente. Voilà l'expérience d'une vulnérabilité, que ce soit du côté médecin, mais surtout aussi du côté malade. Et est-ce qu'un élément qui pourrait aussi aider lorsqu'on a voulu enfouir ce manque? Et on a voulu remplir de tas de choses pour ne pas accepter sa vulnérabilité. Est-ce qu'un élément qui peut aussi aider, c'est cette rencontre avec des personnes plus pauvres, qui, elles, ne peuvent pas, entre guillemets, planquer leur vulnérabilité? Est-ce que cette rencontre-là ne va pas nous aider aussi à redécouvrir que nous sommes pauvres et que nous avons besoin d'être visités et revisités par le Seigneur et lui redire combien nous avons besoin de lui, comme un peu Saint-Pierre qui pensait connaître tout, et puis finalement, à un moment donné, il y a des moments où on est mis dans un état de telle vulnérabilité, de pauvreté, comme par exemple la maladie, mais d'autres choses qui font que, eh bien, on a d'autres choix que de présenter cette vulnérabilité au Seigneur. Au fond, est-ce que c'est pas aussi la pédagogie de l'Eucharistie? La pédagogie de l'Eucharistie, c'est la fragilité de l'hostie, qui est une hostie non consacrée, qui est, on peut dire, une sorte de pierre d'attente, qui rencontre la transcendance, qui devient présence réelle. Et c'est pour ça que nous participons de l'Eucharistie. C'est pas juste un rituel qui est installé dans nos vies. On participe de l'Eucharistie parce que, précisément, et vulnérabilité et transcendance se rencontrent. Et donc, nous venons là pour réapprendre du Seigneur comment nous avons à vivre, nous laisser toucher à nouveau par lui. C'est certainement cette invitation à nous laisser toucher par lui qui va permettre de nous laisser aussi transformer. Vous voyez, je pense que c'est intéressant de voir l'Eucharistie comme cette pédagogie qui à la fois voit la vulnérabilité comme une alliée et le corps comme un pédagogue. Vous voyez, je pense que il y a toute une pédagogie dans l'Eucharistie qui est extraordinaire, justement parce que le Seigneur, dans la fragilité du pain consacré, répand sa gloire dans la foi. Dans la foi, bien sûr, c'est la foi, mais il est autant Dieu sur l'autel, c'est notre foi, qu'il est dans le royaume, c'est notre foi. Je trouve que c'est intéressant de dire cet avant et cet après que, en instituant le mystère de l'Eucharistie, le Seigneur a pu nous donner une pédagogie pour que nous ne puissions plus voir les manques comme des menaces. Nous ne puissions plus voir le manque comme une menace, mais au contraire, comme un lieu de contact. Un lieu de contact avec quelque chose qui est bien plus grand que moi. On peut voir aussi, c'est la pédagogie de la Vierge Marie. La Vierge Marie, évidemment, elle a expérimenté cette fragilité et elle a été comblée du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est venu sur elle. Elle a laissé cette vulnérabilité eh bien, être envahie par la puissance de Dieu. Alors, on voit qu'il y a là, un moment donné, clé dans la vie de tant d'hommes et de femmes où ils ont compris, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est débloqué en eux, qui ont dit, tiens, cette pierre d'attente qui est en moi, déjà, je la reconnais, je ne la plante pas, je ne la comble pas de tas d'autres choses, je ne la comble pas de tas d'autres choses, pour justement la mettre... Non, je la reconnais, il y a quelque chose en moi qui est en devenir, il y a quelque chose en moi qui est un appel à un ailleurs, et à la fois, cet appel à un ailleurs, je reconnais qu'il ne peut être satisfait que par la transcendance. La transcendance qui transcende précisément tous les codes sociaux, et on voit bien que le Seigneur visite les publicains, s'approche des femmes adultères, s'approche des Samaritains qui étaient mis de côté, etc. C'est ça, la transcendance ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas l'apparence des personnes, mais au contraire sonde les cœurs. Et le fait d'être sondé, de laisser son cœur sondé par le Seigneur, par son Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous sonde, et le fait de lui découvrir à l'Esprit du Seigneur ce besoin, ce sentiment d'inachevé, eh bien, qui va faire qu'il va y avoir une bascule dans notre vie. Il y a quelque chose. On les envie presque, ces hommes et ces femmes qui ont eu cet avant et cet après. On les envie presque, ça semble tellement facile pour eux. Laissons tout, ils le suivirent. Et pour nous, parfois, c'est bien plus complexe, on le sait très bien. On est à tâtons, on essaie des choses, etc., etc. Mais ils sont là pour nous dire, voilà la route à suivre. Eux-mêmes aussi sont des signes. Et quand vous entendez signes, vous entendez sacrement. Eux-mêmes, ces personnes-là, sont des signes que de la manière dont le Seigneur veut que l'on s'approche de lui et que nous puissions être invités nous-mêmes à faire notre chemin, à découvrir en nous cette pierre d'attente, à découvrir en nous cette incomplétude pour la laisser visiter par le Seigneur. Alors je trouve que c'est beau que nous puissions, en ce jour où nous prions de façon particulière pour les malades et tout le monde de la santé, mais nous puissions nous découvrir nous aussi en attente. Et que chacun dans son cœur puisse réfléchir, quelle que soit sa situation, vous, jeunes célibataires qui voulez avancer dans la confiance, vous qui êtes guide et cheftaine, vous qui êtes dans la prière des mères, et puis vous qui venez de façon habituelle ou de temps à autre à nos célébrations, et nous frères, que nous puissions réfléchir, de dire, mais où est-ce qu'on est dans la manière de présenter au Seigneur notre vulnérabilité? Parce que si peut-être rien ne se passe dans notre vie, alors en attente de merveilleux, ça c'est sûr, mais si rien de... Si on sent qu'il y a des blocages dans notre vie, on sent qu'il y a des choses en forme de disque rayé, vous voyez, qui font que ça n'avance pas dans notre vie, est-ce qu'une des clés, il peut y en avoir d'autres, mais une des clés n'est-elle pas justement là, dans cette rencontre de l'inaccompli et de la transcendance? C'est intéressant de voir comment le Seigneur lui-même nous montre aussi un chemin dans l'Ancien Testament. Vous l'avez lu, c'est cette très belle prophétie d'Isaïe qui relate au fond sa vocation et le Seigneur qui dit, qui lui-même se fait comme un être manquant, un peu comme dans l'Eucharistie, il n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, hein, quand il dit « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» C'est comme ça. Quelque chose d'incroyable. Alors que juste avant, il y a eu une théophanie avec les portes qui ont tremblé, avec l'encens qui a fumé de partout, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle une théophanie. Et tout de suite après, l'expérience d'un manque. Le Seigneur lui-même qui dit, Voilà, qui ira pour nous? Quelque part, se montrant dépourvu, se montrant fragile, qui, qui enverrai-je? Le manque comme un appel. Le manque comme un appel. L'inaccompli comme un chemin pour un au-delà. Vous voyez, je pense que c'est intéressant de réfléchir là-dessus et de réfléchir comme ça. Et ça fait écho évidemment à l'Eucharistie. Ça fait écho parce que justement, précisément, le Seigneur lui-même accepte dans la fragilité du pain consacré de se révéler totalement dans la foi. C'est le mystère de la foi. Alors, oui, c'est le moment certainement aujourd'hui et régulièrement de méditer sur cette question-là de l'appel des premiers disciples, de dire ben, nous sommes aussi des pauvres, que ce soit dans notre vie consacrée, que ce soit dans la vie matrimoniale, dans la vie de jeune professionnel, etc., de reconnaître en nous qu'il y a quelque chose d'inaccompli, de reconnaître cette incomplétude. C'est là peut-être où notre liberté se joue. Il y a quelque chose de notre liberté qui se joue là. De dire, tiens, est-ce que je ne suis pas au contraire, parce que je suis dans le regard des autres et dans la volonté d'être approuvé par les autres et d'être, de certaine manière, validé par d'autres, mais du coup, je planque tout ce qui est à planquer. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si c'est comme ça que vous agissez, rien ne se passera dans votre vie. Ça, c'est sûr. Parce que là, vous serez juste dans un regard humain, dans une logique humaine de vouloir plaire, d'une vie par procuration. Non. Non. C'est pas ça. Et donc, les premiers disciples n'ont pas vécu par procuration. Oui, donc, et puis tant d'hommes et de femmes après eux, ils ont eu ce moment de vérité dans leur vie, et parce qu'ils ont eu ce moment de vérité, eh bien ils ont eu un avant et un après, ils ont pu avancer dans leur vie et construire et porter du fruit, et un fruit qui demeure. Amen.